Donc, on va reprendre pour peut-être pas tout à fait une heure, un peu moins. Donc maintenant, je vais vous parler, donc je vous ai assez longuement parlé, peut-être trop longuement, de l'aspect intra-atomique, de la définition de ce couplage de Hund. Donc maintenant, je voudrais commencer à voir les conséquences de ce couplage de Hund, d'abord pour l'énergétique du gap de Mott. Alors, on va commencer par regarder toujours, donc, pour discuter de l'énergétique du gap de Mott, on peut se placer loin dans l'isolant et regarder quand le gap de Mott va se fermer, quand on augmente l'énergie cinétique. Donc, on peut commencer par regarder des arguments purement atomiques. Donc, je regarde un atome isolé et je regarde cette fameuse différence d'énergie dont j'avais déjà parlé dans des cours précédents, qui consiste à faire la chose suivante. Vous prenez deux atomes, chacun ayant leur valence nominale n, et puis vous imaginez que vous prenez un électron sur l'atome de gauche et vous le transférez sur l'atome de droite. Donc vous passez d'une configuration n-n à une configuration n plus 1, n moins 1. Bien. Alors quand vous faites ça, vous pouvez calculer cette différence d'énergie entre la configuration d'arrivée, ça va donc être En plus 1 plus En moins 1, où E0 ici, c'est le fondamental du système pour N plus 1 électron, N moins 1 électron, et puis vous retirez l'énergie de l'état initial où les deux atomes étaient dans l'état N. Vous voyez que cette différence, cette expression, elle peut aussi s'écrire comme l'énergie d'ionisation moins l'énergie d'affinité. Si je réécris ça, E de N plus 1 moins E de N plus E de N moins 1 moins E de N, ça a cette interprétation. Bien, alors si vous faites ça, vous voyez qu'il y a deux cas. Soit la couche est demi-pleine, soit elle n'est pas demi-pleine. Et donc ça, c'est un point qui est très clairement expliqué dans l'article de Luca récent. Et dans le contexte de l'atome isolé, vous trouverez aussi ces arguments dans Van der Mare et Lesawatzky. Donc, si la couche est moins que demi-pleine, tous les états auxquels vous accédez dans ce processus sont des états de spin parallèle avec un électron gentiment dans chacune des cases. Par exemple, pour illustrer les choses tranquillement, si vous prenez, si vous cherchez à regarder la configuration n égale 1, donc vous aurez cet état-là, et quand vous allez passer à n égale 0, évidemment, l'état complètement vide. Quand vous allez passer à l'état n égale 2, c'est cet état ici. Donc, vous n'avez à considérer que des états de spin maximal. Dans ces conditions-là, vous voyez que, si je reprends la forme de l'hamiltonien de Kanamori que j'avais écrite ici, ou même sans prendre cette forme, vous voyez que la seule interaction qui compte, c'est l'interaction entre spins parallèles dans l'estimation de ce couplage. Donc, ici, par exemple, vous allez payer l'interaction U' moins J pour aller vers l'état n égale 2, et cet argument sera correct chaque fois que vous n'avez jamais à accéder à une couche demi-pleine ou plus que demi-pleine. Autrement dit, si vous faites ce calcul dans le cas d'un état qui n'est pas demi-plein, j'essaie de retrouver, voilà, si vous faites ces calculs donc dans l'état qui n'est pas demi-plein, eh bien, tout simplement, vous allez trouver ici une différence qui est simplement un U effectif égal à U' moins J, et U' étant U moins 2J, vous trouvez au total U moins 3J, que vous allez obtenir en calculant cette différence d'énergie. Donc, tout se passe comme si, quand la couche n'est pas demi-pleine, le couplage de Hubbard effectif était simplement réduit par 3J. Donc vous voyez l'effet du couplage de Hund est de réduire de manière importante l'interaction de Coulomb répulsive. En revanche, si vous faites ce même calcul pour la couche demi-pleine, vous voyez que cette fois, quand vous rajoutez un électron, donc prenons par exemple le cas d'une couche T2G demi-pleine, où vous auriez les trois électrons de spin parallèle, quand vous allez calculer cette énergie d'ionisation, vous allez rajouter un électron, vous allez donc avoir 4 électrons dans votre touche T2G, donc vous allez être obligé de créer une double occupation. Cette double occupation, cette fois, elle coûte un poids U, et plus un poids U' moins J. Autrement dit, l'énergie du premier état excité avec M plus 1 électron, hein, donc un électron plus que la couche demi-pleine, ça va être U' moins J fois le nombre de paires d'électrons de spin parallèle, plus une fois U, plus M moins 1 fois U'. Donc quand vous calculez ça, vous voyez que c'est exactement U' moins J fois MM plus 1 sur 2, où M est le nombre de cases disponibles, plus un surcoût énergétique qui est U moins U' plus MJ. Donc vous voyez ce que j'ai fait ici. J'ai regardé l'énergie de l'état avec M plus 1 électron, et j'ai fait ce calcul tout simplement en ignorant les termes de spin flip et de pair hopping, mais comme je ne considère que l'état qui satisfait, l'état fondamental qui satisfait à la règle de Hund, en fait, ces termes de spin flip et de pair hopping n'ont aucun rôle, puisque vous voyez bien que si j'ai un état où tous les spins sont parallèles, ben vous ne pouvez pas faire agir le terme de... Vous ne pouvez pas faire sauter une paire et vous ne pouvez pas renverser un spin et renverser un autre dans l'autre sens. D'accord ? Donc, pour calculer ce gap de mode dans l'atome, il suffit de considérer l'hamiltonien densité-densité, ça suffit, et ce résultat est toujours correct, même en présence des autres termes. Et donc, le point important, c'est que le gap de l'atome isolé est diminué par l'effet de J pour tous les cas sauf la couche demi-remplie. En revanche, il est considérablement augmenté par l'effet de J, enfin il est augmenté par l'effet de J pour la couche demi-remplie. Donc ça, c'est ça le message clé. Alors en fait, ce message clé, là, il est expliqué pour l'hamiltonien Kanamori. Il reste correct pour l'hamiltonien complet, hein, l'hamiltonien d'une couche avec les 5 orbitales D en symétrie sphérique. Vous pouvez voir la comparaison ici dans l'article de Van der Marel et Zawadzki. Vous pouvez voir cet effet. Vous voyez qu'ici, pour la couche demi-pleine, donc cette fois avec 5 électrons parmi 10 possibles, vous avez une augmentation. Donc ça, c'est les notations U0 ou F0 et J1, c'est le J1 de l'atome complet. Vous voyez que le gap pour la couche demi-pleine est augmenté par 4JH. Les expressions pour les autres cas sont un petit peu plus compliquées que dans le cas de l'hamiltonien de Kanamori. Il faut intervenir cette constante supplémentaire C. Mais l'effet physique est toujours le même. Le gap est diminué dans ces cas-là et augmenté dans ce cas-ci. Bon, alors quelle est la conséquence de ça? La conséquence de ça, c'est que le couplage de Hund va avoir une importance immédiate sur la valeur de l'interaction critique U où on réalise l'isolant de mode. Alors ça, vous pouvez le comprendre d'une manière très naïve, en disant simplement, si j'arrive à trouver une craie, que pour estimer le U critique, il suffit d'égaler le U effectif. Donc c'est une estimation très simple du U critique, disons à la Hubbard. Il suffit d'égaler le U effectif à quelque chose qui va être une mesure de l'énergie cinétique ou de la largeur de bande. Alors je l'appelle W tilde parce que ce qu'on met vraiment là est un point délicat dont je vais parler un petit peu plus en détail après. Mais disons, dans une image très simple à la Hubbard, ce qu'on ferait, c'est qu'on décalerait les deux bandes de Hubbard d'une quantité U effective. Et si j'appelle W tilde la largeur de ces bandes, vous voyez que le moment où le gap s'ouvre, c'est le moment où on a cette condition, disons de manière très simple. Alors, vu comme ça, vous voyez que ce à quoi on s'attend, c'est que dans le cas où on n'est pas dans une situation demi-remplie, donc quand n est différent de m, mais on doit avoir U moins 3J égale W tilde. Donc ça me dit que le U critique, c'est W tilde plus 3J. Donc c'est quelque chose qui est augmenté par J. En revanche, dans le cas d'une couche demi-pleine, je dois faire U plus M moins 1J égale W tilde, et donc U critique, c'est W tilde moins M moins 1J. Donc, le point crucial, c'est que le couplage de Hund favorise considérablement le passage dans l'état isolant pour une couche demi-pleine et rend le passage dans l'état isolant plus difficile pour tous les autres cas. Donc, génériquement, il est plus difficile d'entrer dans l'état isolant en présence du couplage de Hund, sauf pour une couche demi-pleine qui baisse énormément le U critique. Alors ça, vous le voyez très bien dans des calculs beaucoup plus précis. Comme, je vais peut-être vous montrer d'abord ça. Voilà, donc ça, ce sont des calculs que j'ai extraits de cet article de Luca de Medici qui vous montrent, alors vous pouvez vous focaliser simplement sur le cas de trois orbitales. Donc, ah oui, ici, ça, c'est M. C'est pas les notations ici, c'est que M vaut 3. M est mon N, en fait. Et puis ça, c'est le nombre d'électrons, c'est mon N. Donc, ce que vous voyez ici, la ligne rouge vous montre l'évolution du U critique en fonction du couplage de Hund. Et donc, vous voyez un très, très fort effet de réduction de l'interaction critique par le couplage de Hund, exactement comme cet argument naïf le suggérerait. Mais en fait, l'effet est beaucoup plus fort que simplement cet effet-là. Donc, vous voyez cet effet-là, comme ici, M vaut 3, il suggérerait que U critique vaut W moins J. Donc, ça serait un comportement linéaire. Et effectivement, ce comportement linéaire de pan J est réalisé à J très grand. Mais l'effet au départ est beaucoup, beaucoup plus rapide pour une raison que je vais expliquer après et qui sera l'objet d'une partie du cours de la prochaine fois. Donc, vous voyez, le U critique décroît très, très vite. En revanche, si je suis avec un électron qui est la courbe bleue ici, vous voyez que le U critique monte. Alors, il y a un effet qui est intéressant, c'est que si vous maintenant vous prenez une couche qui n'est ni remplie par juste un électron, ni demi-pleine, donc dans le cas de trois orbitales, le seul cas c'est deux électrons ou quatre électrons, eh bien vous voyez en fait un effet non monotone, c'est-à-dire qu'à grand J, effectivement, U critique monte, comme le dit cet argument, mais à J petit, U critique descend. Donc il y a un effet non monotone, où U critique descend et U critique monte après. Alors ceci vous dit quoi ? Ceci vous dit que l'étude de la transition de mode en l'absence du couplage de Hund, c'est peut-être quelque chose qui est bien pour les modèles théoriques, mais c'est quelque chose qui est complètement irréaliste pour l'étude des vrais matériaux. Pourquoi ? Parce que si vous étudiez la transition de mode en fonction de J, en fonction de U, alors ça c'est une représentation du couplage critique en fonction du remplissage de la couche, donc ici c'est le cas demi-rempli, ça c'est complètement rempli, ça c'est vide, en l'absence de couplage de Hund. Vous voyez que le U critique est au contraire maximal au demi-remplissage et plus faible quand on s'éloigne du demi-remplissage. Donc on a une forme comme ça. En revanche, quand vous regardez le couplage critique en fonction du remplissage de la couche en présence d'un couplage de Hund, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que vous avez un U critique minimal au demi-remplissage et de plus en plus grand en dehors du demi-remplissage. Donc vous avez une forme comme ça. Clairement, dans les vrais matériaux, le couplage de Hund est là, et donc ceci est complètement éloigné de la réalité physique des oxydes. Et en effet, ceci suggérerait qu'il est beaucoup plus facile d'avoir un oxyde métallique avec une couche demi-remplie, qu'un oxyde métallique avec une couche non demi-remplie. Et dans la pratique, dans la nature, c'est exactement l'inverse qui est vrai. Tous les oxydes 3D demi-remplis sont isolants. Je connais personnellement aucune exception à cette règle. Alors vous le voyez très bien ici, donc ça c'est un fameux diagramme assez connu dans le domaine, qui est une sorte de carte des oxydes de métaux de transition, qui est dû à Atsushi Fujimori, Et ce que vous voyez ici, c'est une estimation de la force du couplage en fonction du remplissage de la couche. Et vous voyez qu'ici, eh bien, il y a une très, ce qui est grisé est isolant, ce qui est blanc est métallique. Et donc vous voyez qu'il est beaucoup plus facile, enfin tous les matériaux qui sont représentés ici sont dans la zone grisée, donc pourquoi dans le cas de 3 électrons, parce qu'en fait c'est le demi-remplissage du multiplet T2G, d'accord ? Alors que quand vous allez ici, vous allez commencer à trouver des matériaux métalliques. Donc c'est complètement essentiel pour rendre compte de la forme qualitative de ce diagramme de phase, de prendre en compte l'effet de ce couplage de Wundt sur l'interaction critique. Et donc l'effet, de cette forme-là, hein, par opposition à celle-ci. Bon, alors vous le voyez très bien ici dans d'autres calculs, ça c'est des calculs de l'équipe d'Andy Millis, où vous voyez le diagramme de phase, alors cette fois-ci U, potentiel chimique, hein, dans le cas J égale 0, donc vous voyez que le U critique est petit pour un électron, un peu plus grand pour deux électrons, encore un peu plus grand pour trois électrons, alors que dès que vous mettez un couplage de Wundt, c'est l'effet exactement opposé. Le U critique est le plus grand pour un électron, et un peu plus petit pour deux électrons, et beaucoup plus petit pour trois électrons. Voilà. Donc, disons ça, c'est l'effet c'est l'effet, je dirais, qui s'explique le plus facilement avec les mains. Ceci étant dit, le comportement détaillé en fonction de J n'est pas vraiment pris en compte de manière satisfaisante par cet argument simple. Vous voyez que cet argument simple, il va en gros me dire qu'à J grand, eh bien, on s'attend à ce que le couplage critique soit contrôlé par 3J, donc une pente linéaire montante dans ce cas-là, et par moins J, donc une pente linéaire descendante dans ce cas-ci. Mais le comportement détaillé dans un régime intermédiaire, qui est probablement le régime relevant en fait pour les expériences, puisque J, ce régime-là est quand même des J qui sont très très grands par rapport à la largeur de bande, ce comportement peut être plus compliqué. En particulier, j'ai déjà fait remarquer que dans ces calculs, vous voyez que le U critique s'écroule beaucoup plus vite que ne le laisserait suggérer cette loi. Et même dans ce cas où j'ai deux électrons dans trois orbitales, on a un minimum du U critique en fonction de J. Donc on a un effet antagoniste où U critique commence à descendre et à remonter. Donc comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors en fait, pour expliquer ça, il faut comprendre une chose importante, qui est que le couplage de Wundt lève les dégénérescences du multiplet fondamental. Donc si J égale 0, prenons le cas de la couche demi-remplie, on a vu tout à l'heure que si j'ai trois orbitales, une couche demi-remplie, le multiplet fondamental a une très très grande dégénérescence, je crois que c'était 20, hein, dans le cas où J égale 0. Donc dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a énormément de canaux de saut possibles, de sauts électroniques possibles, hein, et la largeur de bande qu'il faut mettre ici, dans cet argument, va être quelque chose de grand. En revanche, dès que vous mettez le couplage de Wundt, eh bien, vous levez la dégénérescence du multiplet fondamental, vous avez un objet dont la dégénérescence est beaucoup plus faible, et les canaux de saut possibles sont beaucoup moins nombreux. C'est le blocage du moment cinétique orbital, si vous voulez. Autrement dit, le W tilde qui est là va être très rapidement beaucoup plus petit. Et c'est ça qui est responsable du fait que la décroissance de cette courbe est beaucoup plus rapide que ne le laisserait supposer ce simple argument-là. Alors, pour être un peu plus clair, on peut même montrer que quand j'ai un système avec M orbital et pas de couplage de Wundt, donc si j'ai M orbital et J égale 0, on peut montrer que le U critique, qui est en fait le U critique où se ferme le gap de Mott, donc on l'appelle en général UC1, est quelque chose qui croît comme racine de M, Et vous le voyez sur les courbes que je montrais tout à l'heure ici. Vous voyez ici qu'il y a une croissance du U critique ici assez rapide avec la dégénérescence orbitale. En revanche, dès que J est non nul, cette loi-là n'est plus vraiment pertinente parce que ces degrés de liberté orbitaux sont bloqués. Et donc cette croissance du U critique en racine de M, elle n'est plus vraiment pertinente dans le contexte des systèmes avec couplage de Hund. Et ça, c'est aussi une discussion que j'ai eue récemment avec Luca sur ce sujet et qui a une importance pour comprendre ces comportements-là. Bon, donc le message qui est ici, c'est que pour comprendre un petit peu la géographie générale des oxydes, il faut absolument comprendre comment les transitions de Mott dépendent de ce couplage. De cet échange intra-atomique. Alors, vous voyez que ça nous amène finalement à discuter quelque chose qui est non seulement l'énergétique d'un atome, mais également, donc ça c'est l'aspect U effectif, si vous voulez, mais également l'aspect énergie cinétique. Donc, c'est ce W tilde ici, que j'avais dans le membre de droite. Qu'est-ce qu'il est finalement? C'est une mesure de l'énergie cinétique à laquelle je dois comparer le U effectif. Pour attaquer ce problème, il faut s'intéresser à la phase métallique. Il faut s'intéresser au système dans sa phase métallique pour comprendre quelle est l'énergie transportée par les quasi-particules dans la phase métallique. Et donc, ça nous amène assez directement à regarder un premier problème, plus simple qu'un vrai solide étendu, qui est le cas d'un atome dans une matrice métallique, donc un problème de type impureté magnétique, un problème de type Kondo. Et en fait, il y a toute une littérature des années 70 sur l'effet d'un couplage Kondo, la manière dont le couplage de Hund affecte l'écrantage Kondo dans un solide. C'est une littérature qui a été un petit peu oubliée et qui a été récemment redécouverte par différents auteurs. Mais en fait, il y a vraiment une littérature abondante là-dessus. Et l'élément de base qui motive cette étude dans les années 70, donc à la grande époque où les gens étudient les impuretés magnétiques dans les solides, c'est l'observation suivante. Vous voyez qu'ici, donc maintenant je parle d'un atome de métal de transition dans une matrice métallique. Vous voyez qu'ici, on a la température Kondo en fonction du spin de l'impureté. Et c'est une échelle log, ici, sur l'axe vertical. Donc on parle de variations très grandes. Ce que vous voyez, c'est que la température Kondo s'écroule extrêmement rapidement avec la taille du spin de l'impureté magnétique. Donc si vous prenez ici le manganèse, dont on a vu tout à l'heure qu'il avait tendance à former des moments de spin 5,5, c'est là où le couplage de Hund est le plus marquant, d'accord ? Vous voyez que ça conduit à des écrantages Kondo qui ont lieu à des températures extrêmement faibles. Alors que pour des spins 1, par exemple, on va avoir des effets beaucoup plus. Des effets d'écrantage à des températures beaucoup plus élevées. Donc, ça, je dirais, c'est l'observation expérimentale qui motive, à partir des années 70, l'étude de l'influence du couplage de Hund sur l'effet Kondo. Alors, il y a un certain nombre d'articles pionniers là-dessus, qu'il est important de rappeler. Il y a cet article de Schrieffer, 67, et puis il y a deux articles qui introduisent, je pense les premiers articles, en fait, qui introduisent une généralisation de l'hamiltonien Kondo en présence d'un échange de type Hund. Un article qui est un article de Caroli, Lederer et Saint-James, vous voyez les gens actifs en région parisienne, qui écrivent en fait un des hamiltoniens que j'ai présenté dans les slides précédents, pas complètement invariant par rotation, et puis Dvorin et Narat, qui peu après introduisent l'hamiltonien dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait un terme en U-3J sur 2N carré, et puis un terme en S carré. D'accord, donc ça, c'est l'hamiltonien de Dvorin et Narat. Et puis, un petit peu après, on assiste aux premiers travaux théoriques pour estimer comment la température Kondo dépend du couplage de Hund. Et ça, c'est des travaux qui sont presque entièrement des travaux japonais. En particulier ce travail-là de Okada et Yoshida, qui est vraiment un travail pionnier dans ce domaine, qui regarde des fonctions d'onde variationnelles, donc une approche de type Gunnarsson-Schönhammer, quelque chose comme ça, pour traiter le problème Kondo dans ce contexte, et qui montre qu'effectivement, il y a une forte réduction du couplage Kondo par le couplage de Wundt. Donc en fait, ce que je vais faire dans le cours suivant, c'est que je vais vous parler un petit peu plus en détail du traitement de l'effet Kondo en présence du couplage de Hund et de pourquoi cette température Kondo est réduite en combinant différentes approches. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, ce qui nous permettra de comprendre en fait un peu mieux quelle est l'origine, dans le contexte cette fois d'un solide, de la réduction très rapide du U critique en fonction de J qu'on a vu tout à l'heure. Voilà, alors juste pour vous mettre un peu en appétit pour la prochaine fois. Donc voilà un exemple, ça c'est un calcul variationnel de Okada et Yoshida qui montre effectivement que quand je regarde le couplage de Hund, c'est une échelle log-log, en fonction de log TK, en fonction de log J, vous voyez qu'on a un effet très rapide de suppression de TK, qui est un effet, comme vous le verrez au cours prochain, où il y a un régime loi de puissance et un régime exponentiel, il y a en fait deux régimes, ce qu'on peut comprendre à la fois par des calculs et par les calculs de Poorman scaling, par exemple, qui montrent l'existence de ces deux régimes. Voilà, mais je pense que je n'ai pas vraiment le temps de me lancer là-dedans maintenant, donc je vais plutôt arrêter et consacrer une bonne moitié du cours prochain, disons, à une analyse plus détaillée du problème Kondo en présence du couplage de Hund. Voilà, bon, ben, je crois que le mieux, c'est de s'arrêter sur cette figure, et si vous avez des questions, c'est le moment.
Peut-être que j'aurai la réponse au cours suivant, mais en fait, dès qu'on va brancher J, oui, la pureté, on va, oui, avoir un grand spin. Donc, est-ce que cette réduction de TK, elle n'est pas due au passage entre l'effet Kondo conventionnel, oui, écrantage anosière, et l'effet Kondo non liquide de Fermi, nosière Blandin?
Non, alors en fait, ça anticipe vraiment sur le cours de la fois prochaine. Oui, ça anticipe sur le cours de la fois prochaine, mais les régimes dont je parle sont des régimes qui sont tous les deux des régimes liquides de Fermi. Hein. Dans ce régime où j'ai pas... tu as tout à fait raison de dire que à J égale 0, j'ai une symétrie plus grande. J'ai, en l'occurrence, dans ce modèle de Dvorin-Narat, j'ai une symétrie SU de Zn. Quand je mets J, elle est brisée, d'accord, avec un grand spin. Mais si j'avais J égale 0, j'aurais un liquide de Fermi. Hein, et dans le cas J grand, j'ai aussi un liquide de Fermi. Donc c'est le crossover entre deux points fixes liquides de Fermi, mais avec une échelle de crossover qui est changée radicalement par J.
Donc on n'arrive, voilà, pas dans le régime
sous-écranté. Alors, alors ça c'est une bonne question. Et on verra un peu un exemple de ça, je ne sais pas à quel cours, au cours numéro N, quand je parlerai de la zone blanche non liquide de Fermi, enfin, très mauvais métal de mon diagramme sur les oxydes. Hein. Là, il y a une zone où, mais là, j'anticipe un peu sur la suite, il y a une zone où on trouve des comportements métalliques tout à fait non conventionnel, dans une certaine gamme d'énergie. Ce n'est pas quelque chose qui se continue jusqu'à température nulle. Et un problème de recherche ouvert actuellement, c'est de comprendre si ce comportement non conventionnel, qui a été baptisé spin freezing par le groupe d'Andy Millis, est lié à un point fixe non liquide de Fermi dans le problème Kondo. Enfin là, on anticipe sur la suite. D'autres questions ? Bon, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, au menu la fois prochaine, Kondo et Hund. Peut-être j'aurai le temps dans le cours de parler un petit peu de Ruttanat en introduction du séminaire de Félix Baumberger qui va nous parler de photoémission sur les Ruttanat. Voilà, donc le cours à 14h30, hein, comme aujourd'hui. Désolé pour ceux qui n'avaient pas regardé le site web. Ça a été annoncé seulement il y a quelques semaines. Donc, effectivement. Voilà, mais le cours sera toujours 14h30.